Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode.
D'un côté, il y a le marketing bullshit et il y a le marketing éthique. Et évidemment que personne va se dire ok, moi je vais lancer des stratégies de marketing bullshit, je vais prendre mes clients pour des idiots. Toutes ces techniques là qui sont un peu border, c'est des techniques qui peuvent avoir un impact sur je vais vendre plus aujourd'hui, par contre faire que la personne ne re-signera pas ça chez toi, etc.
Demain.
Là où tous les chiffres le montrent, si on parle vraiment purement indicateur de performance capitaliste.
Valentine Lagan, c'est la copywriter de l'ombre qui travaille avec les plus grands noms des femmes du coaching business comme Nina Ramen ou Pauline Sarda. Son objectif, développer des méthodes de marketing en ligne plus inclusives, plus éthiques et plus féministes. Comment je fais s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas le temps? Leur chômage se termine, ils n'ont plus de revenus, ils ont besoin de cash maintenant tout de suite, sinon prendre un job à mi-temps, etc. Qu'est-ce qu'on leur dit? Valentine, il y a plein de gens, je pense, qui viennent de cliquer sur cet épisode du podcast sans vraiment savoir à quoi s'attendre, de quoi on va parler, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. À ton avis, qu'est-ce qui fait que c'est important pour les freelances, les entrepreneurs qui nous écoutent, de prendre part à cette conversation avec nous?
Parce que je pense que ce qu'on va partager dans cette conversation, c'est notamment un modèle d'entrepreneuriat qui n'est pas extrêmement représenté aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le freelancing, etc., c'est très axé capitalisme, recherche de toujours plus d'argent, de croissance, au détriment parfois de ressources humaines, de santé mentale ou simplement de soins à l'autre, je dirais. Et que je pense qu'on va aborder toutes ces thématiques-là ensemble et qu'on a des récits à partager qui peuvent faire du bien sur ça, de manière très très large.
Cool.
Ouais.
je vais prendre un des points que tu as mentionné là, qui est le soin. Je sais que ça devient, et c'est devenu dans ton histoire, de plus en plus important et de plus en plus public, ta manière de parler de ça, notamment par le spectre du féminisme. Et je suis curieux de qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
Et à quel moment est-ce que tu penses ton histoire avec le féminisme commence?
Oh waouh, oh waouh, c'est tellement énorme comme question. À quel moment on est avec le féminisme commence? Je pense que, alors j'imagine que comme plein de gens, c'est pas un jour je me suis levée, je me suis dit boum, je vais devenir ultra militante et ultra féministe. Ça a été un long travail de déconstruction, même si ce terme parfois je m'y retrouve pas trop, mais ça a été une longue réflexion en tout cas. Je pense que comme beaucoup de femmes et d'alliés, enfin de personnes concernées par les luttes féministes ou d'antidiscrimination de manière générale, ça part d'une expérience personnelle, dans un vécu individuel, notamment de prise de conscience personnellement que je ne savais pas ce que c'était que le consentement, que ce soit dans la sphère intime, privée, voire clairement sexuelle, ou dans mes relations avec les gens, que j'avais vraiment tendance à dépasser mes limites, à faire ce que les gens attendaient de moi. Parce que c'était ce qui était attendu de moi d'un point de vue sociétal aussi, parce que j'étais une femme dans un contexte politique qu'on peut qualifier de patriarcal. En tout cas, comment je peux résumer ça? Un contexte qui systémise un rapport envers la femme qui est un rapport de domination. Et du coup, je pense que en fait, me lancer en freelancing, commencer à bosser avec des gens et à me demander pourquoi je fais ce que je fais et où est le sens dans ce que je fais, enfin le grand pourquoi de quelles sont les boîtes que j'avais d'accompagner et pourquoi, ça m'a permis de donner une vision collective, un impact collectif à des réflexions individuelles que j'avais sur justement le manque de connaissances et de visibilité de ce qu'est le concept du consentement. Et je me suis rendu compte progressivement que même dans les stratégies marketing, c'était une notion qui était ultra, pas décriée, mais malmenée. Et que quand on parlait souvent il y avait un peu à l'époque, c'était, bon, d'ailleurs c'est toujours le cas je pense, mais on entendait beaucoup d'un côté il y a le marketing bullshit et il y a le marketing éthique, et évidemment que personne va se dire ok, moi je vais lancer des stratégies de marketing bullshit, je vais prendre mes clients pour des idiots, enfin ça existe mais bon c'est quand même assez minoritaire, mais par contre en fait comme on n'envisage pas le marketing sous l'angle du consentement, on n'a pas forcément de critères sur qu'est-ce qui est bullshit finalement et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand on est dans une recherche d'impact et de résultats financiers aussi, souvent on peut se rendre compte que des gens qui ont des supers intentions vont adopter des pratiques qui sont assez discutables pour l'audience cible. Et du coup, c'est toute une espèce de... Je pense que de partir du point de vue individuel, de violence vécue personnellement, pour se rendre compte que finalement ça impacte absolument tous les domaines de nos vies, aussi bien professionnels que personnels.
Ouais.
Et que la vie privée, finalement, est politique. Enfin, tout est politique, in fine. Je veux bien que tu reprennes s'il y a des trucs que j'ai dit qui n'étaient pas hyper clairs.
Non, moi j'ai trouvé ça super clair, okay. Mais j'ai l'impression que ce que tu racontes, c'est ce que beaucoup de personnes aussi ont pu vivre. On vit des choses dans notre vie personnelle, à différents âges, de l'enfance jusqu'à maintenant, qu'on peut interpréter ou non, et souvent il y a une manière de l'interpréter sous un angle systémique féministe, via la vision de se dire on vit dans une société patriarcale, et du coup on peut voir les choses sous ce spectre-là. Tout le monde n'a pas ce déclic. Et je suis curieux de qu'est-ce qui te mène à ce déclic de se dire ce que j'ai vécu, c'est pas juste un tout petit truc qui me concerne moi, c'est quelque chose qui concerne toutes les femmes, tu vois, qui est beaucoup plus large que juste ton histoire à toi, Valentine.
Ok, je pense que ça y est, je commence à du coup redétricoter le truc et ça devient plus clair pour moi. Il y a bien sûr plein de moments qui ont été clés. Je pense que mine de rien, même si à ce moment-là, sincèrement, j'ai pas forcément suivi, je suivais pas du tout l'actualité politique, c'était pas vraiment quelque chose qui était important pour moi. Mais c'est le moment où les premières graines ont été plantées et aujourd'hui ça continue à avoir beaucoup d'impact, mais ça a été tout le mouvement MeToo en fait. Du coup, de cette libération de la parole de la femme et des prises de parole sur des agressions qui avaient été subies finalement à l'échelle individuelle par plein de femmes et qui permettent de se rendre compte, si tout le monde le vit à l'échelle individuelle, c'est peut-être qu'il y a un problème systémique, t'as dit le mot, mais collectif, qui a une façon d'envisager notamment les relations intimes, parce que comme on le disait, c'est surtout par là que le féminisme s'est infiltré dans ma vie, je dirais, et que du coup ça permet de aussi de nommer des choses. Par exemple, vraiment, moi, à titre individuel, j'ai mis énormément de temps, mais énormément de temps. Ça fait que quelques mois, par exemple, que je vais qualifier certaines violences que j'ai subies d'agression, voire de viol. C'était des mots que j'utilisais pas, c'était une conscience que j'avais pas. Parce qu'en fait, comme on parlait pas de ça avant, j'avais pas les mots pour dire la violence de ce truc-là. Et aussi, un peu, je pense qu'il y a toute cette culture. Le féminisme m'a permis d'aller à l'encontre de toute la culture du. Ce qu'on retrouve aussi, hein, on pourra en parler, mais dans le marketing. La culture qui est ultra française de tout le monde s'en fout de ta vie, arrête de raconter ta vie, arrête de laver ton linge sale en public. Ça ne concerne personne à part toi. Donc voilà, la sphère du privé, c'est la sphère du privé. Tais-toi, quoi. Et c'est aussi ces tabous-là qui permettent de nourrir des violences systémiques. Et je pense que ça a été toute cette prise de conscience du « Ok, en fait, finalement, l'intime, c'est ultra lié au collectif, aux politiques, à comment les interactions, notamment hétérosexuelles, sont encouragées dans le système dans lequel on vit. Et que si ça m'est arrivé à moi plusieurs fois et que je commence à en parler et qu'en fait, il y a plein de gens qui se retrouvent aussi, c'est qu'il y a quelque chose à changer qui n'est pas juste de « Moi, je suis sortie avec des cons, quoi. » Enfin, ouais, ça va bien plus loin que ça. Donc je dirais qu'il y a vraiment MeToo, et puis il y a aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais du coup moi j'ai, pour plein de raisons que de toute façon je ne serais pas capable d'énoncer, mais et puis certainement que j'en ai pas conscience non plus, en gros j'ai une santé mentale un peu fragile, en tout cas atypique, voilà, je suis neuro-atypique, on aura l'occasion d'en parler un peu plus, et du coup ça fait quelques années maintenant que je suis suivie. Et notamment que on fait tout ce travail d'introspection, d'ouverture. Alors moi j'appelle ça l'ouverture de la boîte de Pandore, parce que c'est vraiment ce truc-là de un jour j'ai commencé à tirer les fils de ah ouais ce truc-là il n'était pas hyper consenti, ah ouais mais ça c'était clairement un viol, ah ouais mais ça, etc, etc. Et en fait de me rendre compte que toutes ces choses-là, alors c'est pas juste les agressions qui ont créé ça, mais mon vécu de femme a très largement, à mon sens, alimenté et nourri le trouble de la personnalité avec lequel je vis aujourd'hui. Et les statistiques le montrent aussi, que ce soit donc pour les troubles de la personnalité, moi en l'occurrence je suis diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline, 90% des personnes qui sont diagnostiquées avec ça sont des femmes. Que ce soit les troubles du comportement alimentaire, j'ai pas les statistiques, mais je pense qu'on est à bien plus de 90% des victimes qui sont des femmes, des personnes sujettes à ces troubles qui sont des femmes. Pareil pour encore d'autres tendances à l'autodestruction, à la violence envers soi, etc. Il y a plein de statistiques qui montrent que c'est quand même quelque chose d'assez féminin. Et moi, je trouve ça assez marrant. Peut-être que j'ai pas la connaissance, peut-être que ça a déjà été fait, mais qu'il n'y ait pas d'études sur ça. Ouais. Qu'il n'y ait pas d'études sur le fait que, le patriarcat et le système dans lequel on vit et les violences que les femmes subissent, que ce soit, quand on va jusqu'au bout du spectre des violences vraiment physiques, verbales, etc., voire des féminicides, ou simplement juste le fait d'être une femme dans l'espace public et de te sentir en danger quand tu sors la nuit, d'être dans une situation de vigilance en permanence, et souvent de dévalorisation dans le milieu professionnel aussi, sur plein d'aspects ça se décline, ouais. Cette discrimination sexiste. Comment est-ce que ça nourrit le fait que on soit en tant que femme, quand on est sociabilisée en tant que femme, d'autant plus sujette à ce genre de pathologie mentale, quoi. Donc ouais, je pense que tout ça est lié.
Y a un truc que tu as mentionné dans ce que tu dis qui me semble hyper important, c'est le rôle des médias et le rôle du contenu d'Internet. Et tu parlais de MeToo comme le moment déclencheur. C'est un moment où il y a eu une sorte d'avalanche de contenu disponible sur Internet publiquement, sur les réseaux sociaux, etc., qui font prendre conscience de ce truc de « ce n'est pas individuel, c'est collectif ». Et je sais que tu contribues justement à continuer ce truc-là. Tu es très vocal sur LinkedIn.
Yes. On continue.
Tu es très vocal sur LinkedIn, sur ces sujets. Tu parles de féminisme, tu utilises des mots forts comme génocide, burn-out, neuroatypie, troubles de la personnalité, etc. Et je sais que c'est dur de faire ça. Entre le moment où tu as fait ton premier post et aujourd'hui, je sais que c'est tout un voyage. Je sais que certains posts ont eu plus ou moins de bonne réception de la communauté LinkedIn, je dirais. À quel point est-ce que c'est important, selon toi, qu'il y ait des gens qui osent aller sur LinkedIn, par exemple, et parler de tout ça?
Eh bien, en fait, en répondant à cette question, je vais encore plus répondre à la question d'avant aussi. Effectivement, les déclics, enfin, le déclic que moi j'ai eu sur le féminisme et sur l'impact, enfin, tout ce que ça pouvait m'apporter dans ma vie, c'est aussi venu par, du coup, des témoignages et de la création de contenu et beaucoup de femmes qui faisaient, qui créaient du contenu et qui vulgarisaient des concepts féministes qui liaient justement leur vécu individuel avec, un constat collectif, comme on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Et du coup, cette création de contenu, en fait, en vrai, cette création de contenu-là, gratuite, par plein de femmes, ça a été ma porte d'entrée dans le féminisme et ensuite, je pense, le marketing. C'est pas pour rien que j'adore ce média-là, parce que je pense que vraiment, à travers le marketing, à travers la création de contenu, on transmet des messages, on a une forme d'influence qui est énorme, enfin moi qui a changé ma vie vraiment, qui m'a fait changer ma vie de A à Z et sans le moindre regret aujourd'hui. Donc l'impact qu'on a en partageant des récits, et nos récits notamment, il est exponentiel et souvent, enfin moi la première, je m'en rends pas forcément compte. Parfois il y a des gens qui te contactent en te disant bah merci, j'imagine que tu lis aussi, merci de parler de certains sujets, merci de mettre des mots sur ça, merci de nous représenter. Moi, soit ça me permet d'avancer dans ma réflexion, soit ça me permet de mettre des mots sur certaines choses, soit ça me permet de me sentir soutenue, comprise, soit simplement, je trouve ça hyper positif qu'on commence à avoir des récits d'autres modèles de réalités qui parfois sont pas les réalités hyper normées, hétéronormées souvent, qu'on nous vend. Du coup, pourquoi c'est important? Moi, la première chose vraiment que je tiens à dire, c'est je pense pas que ce soit une nécessité. Hein. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens, et en fonction des chemins de tous et toutes, voilà, il y a des personnes qui sont pas faites pour partager publiquement les méandres de leur vie et leurs difficultés et les traumas qu'ils ont pu vivre. Et vraiment, j'invite à faire extrêmement attention à ça, à ne pas partager des choses qui sont pas... Bon, je ne sais pas si on guérit de tout, mais en tout cas, voilà, sur lequel il n'y a pas eu un chemin de guérison déjà, et pour lequel on ne se sent pas prête à être voilà, publique, parce que clairement, ça peut avoir un impact.
Oui.
Et c'est ultra vulnérabilisant, et notamment, je pense aux personnes qui ne sont pas indépendantes. Quoi. Enfin, il y a des trucs, moi par exemple, sur la neuroatypie, sur mes problématiques de santé mentale, je sais que si je n'étais pas indépendante et ma propre patronne, je ne sais pas si j'aurais autant de facilité à dire publiquement que je me bats avec ce truc-là dans ma tête. Quoi. Enfin, donc il y a vraiment un truc de et le contexte et le contexte extérieur et le contexte intérieur qui doit vraiment être pris en compte. Donc pas le faire, c'est pas un absolu. Il ne faut pas que tout le monde commence à partager toute sa vie parce qu'il faut le faire. Par contre, je pense que c'est hyper utile effectivement d'avoir de proposer des récits différents, de proposer des témoignages et en fait à chaque fois de faire ce lien entre parce que voilà, c'est toujours cette conviction que le privé est politique, que le privé est collectif, que quand on parle de soi, on parle de l'autre en fait.
Ouais.
Et c'est là aussi, moi je le vois, déjà c'est ce que je préfère faire. Après, je pense que j'ai une grande capacité à raconter ma vie, j'adore ça. Il y a plein de gens qui sont assez pudiques, moi je ne le suis pas du tout.
Ouais.
Donc ça m'aide aussi à faire ça, mais moi c'est un de mes plus grands plaisirs quoi, de mettre des mots sur ce que je vis et de me rendre compte que ça a un écho chez les autres. Et parfois un écho qui, enfin tu vois, j'ai quelqu'un qui m'a dit... Depuis que tu parles de ton trouble de la personnalité, j'ai repris contact avec ma sœur, avec qui je parlais plus parce que j'arrivais pas à comprendre et qu'on arrive. Enfin,
ouais.
J'avais peur aussi de ce truc-là, donc j'ai repris contact avec elle. Enfin, des choses comme ça et ouais, ça a un impact sur la vie des gens qui est loin d'être anodin et qui du coup fait du bien dans un contexte dans lequel les récits sont quand même globalement les mêmes, très normés. Notamment les neuroatypies sont pas du tout représentées ou quoi elles le sont, c'est sous le prisme du mélodramatique, d'une espèce d'épée de Damoclès, voilà, tu es voué à la tristesse, à la dépression et on veut pas te voir, on veut pas en entendre parler. Ouais, je sais pas, c'est une manière aussi de partager des récits qui peuvent mettre de la nuance et de la complexité dans nos vies à tous et toutes, hein, qu'on soit neuroatypique, qu'on ait été victime d'agression ou pas, juste se rendre compte que les vies sont beaucoup plus complexes, joyeuses et parfois pas du tout que ce qu'on nous vend très souvent, surtout dans le milieu entrepreneurial où c'est je suis partie de rien et aujourd'hui je fais des cas par mois.
Il y a un discours et un récit très dominant qui prend toute la place et que beaucoup vivent mal d'ailleurs d'avoir.
Complètement. Et je pense que toi d'autant plus parce que t'as une plus grosse communauté que moi, mais on le voit quoi. Et tu me disais, tu vois. Que parfois mes posts n'étaient pas forcément toujours très bien accueillis, etc. Mais j'ai l'impression que plus ça va, moins c'est le cas. Quoi.
Mmh.
Là, je t'en parlais il y a pas longtemps, j'ai écrit un post qui était pour le coup très vulnérabilisant sur le fait que notamment je me rends compte qu'il faut que je reprenne un traitement médicamenteux pour m'accompagner dans les problématiques de santé mentale que j'ai. Et j'avais fait un post sur ça. Et donc je parle de médicaments, enfin on est quand même, surtout qu'en France c'est quand même très tabou, je sais pas trop à l'étranger, mais en tout cas ça reste quelque chose de très tabou. Et j'avais peur de me taper, j'ai quand même eu des gens qui me reprochaient de m'être fait violer dans des posts que j'avais écrits, donc bon, tu peux vraiment avoir de tout. Et ben là pas du tout quoi. Et je me rends compte que plus ça va, plus j'ai l'impression, je sais pas, soit les gens ont tellement ça leur fait tellement du bien qu'on parle de ça, du coup ils sont beaucoup plus vocaces à ce sujet et ouais. Ça prend plus de place et les gens qui sont pas du tout d'accord, parce que je suis sûre qu'il y en a plein évidemment, ils ont le droit aussi, n'osent plus forcément venir démonter ton truc.
Ouais.
Je sais pas, je l'explique pas, mais moi j'ai l'impression au contraire que ça va plutôt vers plus de bienveillance. Et
ouais,
de
j'allais te demander à ton sens qui change, parce que je me souviens de conversations qu'on a eues où, tout début de tes... Merci beaucoup pour l'eau. Au tout début de tes publications sur LinkedIn, genre le raz-de-marée de intensité, parfois colère, parfois haine qu'on se reçoit, c'est hyper dur à passer. Surtout au début, quand tu développes ce muscle de publier et lâcher la main sur les retours. Mais je me demande, est-ce que tu penses que c'est parce que tu as trouvé ta communauté ? Est-ce que tu penses que c'est parce que le type de contenu, notamment sur LinkedIn, est en train de bouger. Tu vois, j'ai écrit un post après mon passage au Gala Elevate de Geneviève sur le fait que j'ai l'impression que le vent tourne un peu. Je sais pas ce que c'est ta sensation là-dessus.
Alors, le dernier point, je le partage avec toi, mais ça fait que depuis le Gala Elevate que j'ai autant d'espoir. On en a beaucoup parlé parce qu'on était présents tous les deux. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un shift qui se fait quand même, en tout cas dans le milieu entrepreneurial digital, qui est quand même un écosystème très
tout petit.
Hein,
oui, oui, oui.
Voilà. Mais je trouve qu'il y a vraiment un changement qui se fait dans justement le fait d'ouvrir et d'accueillir d'autant plus les discours plus... plus slow, quoi. Plus lent, plus dans le soin de l'autre, plus dans l'humain. On a parlé d'anticapitalisme, on a parlé de féminisme, on a parlé de consentement, on a parlé de plein de choses, de ralentir, d'une productivité qui soit au service de la santé mentale et pas juste de plus de croissance pour la boîte. Vraiment, moi, je suis sortie de ce truc-là. Honnêtement, vu le contexte politique récemment, moi, j'étais plutôt dans un mood... c'est l'enfer, tu vois, on va jamais y arriver. Impuissance, plus. Et effectivement, ce gars-là m'a donné l'impression que il y avait un mouvement qui prenait de plus en plus dans notre petit écosystème. Et en même temps, notre écosystème, c'est potentiellement les boîtes de demain qui vont prendre de plus en plus de place et donc qui vont, j'espère, avoir un poids dans l'économie.
Ouais.
Moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Mais avant d'en arriver à là, je pense qu'il y a deux choses. Alors je pense que j'ai créé une communauté hyper bienveillante, étrangement, sur LinkedIn, alors que pour le coup, de base...
C'est pas l'endroit où on se raconte s'il y a le plus de bienveillance.
Mais non,
de
mais
base.
Surtout quand tu parles de féminisme, de... Ouais, c'est... Bon, c'est quand même très globalement, c'est des... c'est des mecs cis blancs à la tête de boîte, etc. Enfin, c'est souvent un petit peu, c'est l'ambiance un peu Startup Nation. Donc, bien entendu, il y a des personnes comme ça qui sont tout à fait open et concernées et intéressées par ça, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas forcément les discours très de gauche. On va dire que c'est très de droite et que mes discours sont très de gauche. Donc, forcément,
il y a un LinkedIn
fait,
de droite et il y a un LinkedIn de gauche.
Et ça commence à se développer. Mais au-delà de ça, je pense vraiment, parce que moi, je sais que j'avais extrêmement peur du regard des autres, de la critique, etc. Des haters, un gros besoin d'être validé. Moi, jusqu'à il y a peu de temps, c'était, c'est toujours un peu le cas, mais vraiment beaucoup moins. C'était maladif quasiment. Et je pense que au-delà de ça, ce qui m'a aidé vraiment, et c'est là où des fois on me pose la question et j'ai pas de conseils à donner ou de méthode à donner parce que c'est hyper lié à mon histoire, mais moi le jour où j'ai eu le diagnostic de neuroatypie, c'est hyper étrange, mais ça m'a libérée d'un truc parce que c'est comme si du jour au lendemain, en fait, on me disait, mais oui, mais effectivement, meuf, t'es pas comme tout le monde. Alors pourquoi tu te prends la tête à essayer de ressembler à tout le monde? Et vraiment, la métaphore qui me venait, c'est en mode, meuf, t'es une louve. Ça fait 28 ans que tu te teins les poils, que tu essayes de te balader, de dandiner du cul comme les tigres. Mais en fait, t'es pas un tigre. Arrête, tu peux te balader avec des tigres et passer du temps avec eux, il n'y a pas de souci. Mais arrête de leur ressembler, enfin, d'essayer de leur ressembler. Tu ne peux pas leur ressembler. Et je pense que ce truc-là, ça m'a juste fait un truc de... Mais pourquoi je m'emmerde à essayer d'être un tigre? Et ça m'a libéré un truc. Et puis aussi le féminisme, je pense. Je sais que mon besoin de validation, je finis par le comprendre, ouais, mais il était très lié à... j'avais été élevée dans l'idée que voilà, il fallait être validée par un certain type de personne, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est toujours aussi le cas, mais souvent des mecs qui ont voilà, des attributs de puissance, soit de l'argent, soit une certaine visibilité en ligne, qui vont toujours paraître mieux que toi, en fait. Et pendant longtemps, ouais, je recherchais... je savais que je voulais pas être féministe, mais je voulais pas y aller trop loin parce que j'avais peur de me mettre à dos, justement... certaines personnes, ce qui n'a pas du tout été le cas d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a un truc où ouais, j'ai juste arrêté de.
Tu dirais que. Parce que là, on parle beaucoup de l'influence, ce lien entre influence systémique et expérience individuelle, et on fait des petits yo-yo, j'ai l'impression. À quel point tu dirais que ce truc-là dont tu viens de parler, de ce truc programmé en nous de plaire à certaines personnes, surtout quand on est une femme et qu'on a été conditionné d'une certaine manière, à quel point ça a influencé tes décisions entrepreneuriales, ce que tu as fait avec ta boîte depuis les dernières années? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des liens qui peuvent se jouer, tu vois, de ce que tu oses dire dans ton contenu ou pas, ce que tu oses proposer et à qui en termes d'offres. Est-ce que tu en vois des liens? J'imagine qu'il y en a peut-être qui ne sont pas présents.
Moi, les liens que je vois, là, quand tu m'as posé la question, c'était plutôt sur le avant la boîte. Clairement... moi, j'ai essayé de suivre le chemin. Enfin, moi, je considère que j'étais élevée, je te le disais souvent, mais j'étais élevée comme un petit garçon. J'ai grandi en comprenant que pour être aimé et validé socialement, il fallait adopter les attributs qui sont valorisés chez les hommes, notamment l'argent, les postes à responsabilité, l'intelligence rationnelle. Donc, j'ai fait du droit, j'ai suivi tout un chemin de fallait caser les cases de la femme féministe de droite, quoi. L'égalité pour tout le monde, mais il faut quand même être au-dessus des autres. Donc bon, aujourd'hui je suis plus trop dedans, mais à ce moment-là c'était comme ça que je m'imaginais avoir de l'importance dans le monde. Et l'entrepreneuriat, ça a été une déconstruction de tout ça. Déjà, j'ai arrêté le droit, j'ai commencer progressivement à bosser plus avec des gens de gauche. J'ai commencé à être plus vocale sur mes engagements féministes. Et du coup, là, comme ça, c'est marrant. Je te retourne la question. Les liens, tu les vois ou qu'est-ce que... Parce qu'il faut savoir aussi que Thomas, on se connaît depuis avant même que j'ai eu mon numéro tiré. Et il m'a vraiment vu. Enfin, on a évolué ensemble.
J'allais dire, j'ai le privilège de quand même te connaître pas mal et d'avoir vu pas mal d'étapes dans le développement de ton entreprise. Il y a des petites anecdotes qui me reviennent de moments où, par exemple, il y a des gens qui t'ont demandé à bosser avec toi et où il y a eu des espèces de hésitations. Je cherche mon mot, mais passer d'un « ah ouais, j'ai envie » à « ah non, pas du tout, ah ouais » et des trucs comme ça, notamment face à des mecs qui ont une certaine prestance dans nos écosystèmes.
J'avais zappé. Ah oui.
Tu te souviens de quelle anecdote je parle, sans nommer bien sûr, parce que le but c'est pas de nommer et de outer, mais sachant qu'il y a des choses qui évoluent, tout le monde change.
Bien sûr.
Mais tu vois, je me souviens de petites anecdotes comme
tout
ça, où je pense qu'il y a un enjeu sur.
Oui.
J'ai envie de plaire à des personnes qui sont dans une posture de pouvoir, parce que mec, parce que dans notre écosystème, etc.
Et qui ont en jouait aussi, qu'il avait utilisé justement une forme de rapport de domination pour essayer de...
Et qui du coup ont pu biaiser ton alignement et ton consentement dans qu'est-ce que je veux vraiment pour mon entreprise et pour qui je veux vraiment travailler. Tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait. Oui, j'avais eu j'avais une grosse réflexion sur ça. Donc j'avais une super opportunité à première vue et in fine, plus le rapport, la collaboration se dessinait, plus je me rendais compte que c'était plutôt une opportunité peut-être empoisonnée, dans le sens où il y avait un rapport un peu de domination qui était mis en place. Moi, j'étais une petite jeunette qui se lançait, qui était hyper joviale et qui voulait faire ses preuves.
Mais pleine de potentiel,
voilà. Et en face, j'avais quelqu'un de beaucoup plus mastodonte dans mon écosystème et j'avais très peur justement, plus ça allait, plus je conscientisais que c'était pas possible de travailler dans ces conditions-là et que je ne pouvais pas me faire marcher dessus, que j'avais pas quitté mon travail, lancé ma boîte pour me retrouver dans un autre rapport hiérarchique assez malsain. Et du coup, j'avais décidé de dire non, mais j'avais effectivement très peur que cette personne puisse pas décrié auprès du marché.
Parce que implications du nom te faisaient peur.
Oui, clairement. Il y avait potentiellement des conséquences sur, en termes de réputation aussi, j'avais peur que ça me fasse une mauvaise réputation, comme cette personne en termes de puissance était plus importante que moi. Et du coup, j'avais très peur de dire non. In fine, j'ai dit non. Et bien, fin de l'histoire, tout s'est très bien passé.
Oui. En fait. mais tu vois, tu nommes un truc super intéressant. Je trouve que à quel point ces rapports de pouvoir jouent,
partout.
Surtout quand on a la perception de nous-mêmes, entre guillemets, d'avoir moins de pouvoir et moins d'importance que la personne en face.
Ouais.
Parce que je pense qu'aujourd'hui...
Ouais, ça n'aurait pas pris autant de temps.
Voilà,
j'aurais pas accepté plein de choses.
Et t'aurais eu beaucoup... Enfin, ouais. Ça aurait pris moins d'espace mental, etc. Parce qu'il y a ce truc de, bon, voilà, j'ai une assise.
Complètement. Complètement.
Pour les gens qui nous écoutent, qui se sentent en infériorité de pouvoir dans un écosystème où il y a des gens qui ont beaucoup plus de pouvoir perçu, en tout cas, que elles, comment on fait pour rééquilibrer la relation?
Alors, encore une fois, c'est aussi ça qui est complexe avec quand tu partages ton vécu individuel. Hein. Mais je suis personne pour donner... Je connais pas les situations précises de chacun et chacune, donc faut pas appliquer forcément ce que je dis à votre situation si vous sentez que c'est pas du tout...
Considérant que c'est des hypothèses,
voilà,
à vérifier.
Mais à prendre avec des pincettes, hein, c'est pas des vérités générales. Mais je pense qu'il y a déjà un premier truc de l'exprimer. Simplement, je pense par exemple à cette personne, sincèrement je pense qu'il y avait beaucoup de non-dits
la façon d'être en lien,
ouais, le bordel que ça a créé, en fait la façon d'être en lien, ouais, c'est bien plus joliment dit. Et qu'en fait c'était moi qui pensais aussi que j'étais pas à ma place pour exprimer mes limites, qu'il n'était pas légitime d'exprimer mes limites, et du coup la personne en face qui faisait ce que je pense qu'elle a toujours eu l'habitude de faire dans des collabs, et qui voyait que il pouvait un peu gratter sur mes limites à moi et prendre plus d'espace, et du coup il y a aussi ce rapport qui s'est imposé parce que je l'ai pas dit, je pense que j'ai pas dit merde au moment où j'aurais dû dire merde. Je pense que à ce moment-là aussi il y a un truc, et ça c'est pas que par rapport à cette expérience-là, mais sur plein d'expériences dans le cadre de collaboration, il y a quelque chose d'assez libérateur à incarner un non sincère, dans le sens à être capable de poser tes limites, notamment quand t'es prestataire de service, ou en tout cas, je vais partir du point de vue de la prestataire de service, où c'est très facile de finir par être considéré un peu comme pas vraiment une employée, pas vraiment une collaboratrice, quelqu'un qu'on paye, donc et puis il y a pas vraiment de lien hiérarchique, donc on peut faire un peu ce qu'on veut, enfin il y a pas vraiment de le cadre est pas vraiment posé, donc souvent on peut se retrouver dans des rapports où on est moins considéré peut-être que des salariés, et du coup on a plus de mal à poser des limites par peur peut-être de perdre le client ou la cliente, etc. Et moi j'ai vraiment réalisé toutes les fois où je l'ai fait, toutes les fois où j'ai eu soit des collaborations qui finalement n'ont pas eu lieu, soit des collaborations qui continuent aujourd'hui depuis 2 ans, et 2-3 même, et chaque fois que il y avait quelque chose qui dépassait une limite et que j'expliquais écoute, là les conditions dans lesquelles on avait envisager notre relation professionnelle, c'était ça. Je considère que là, ça dépasse cette limite-là. Ce que je te propose, c'est X ou Y. Donc, un peu de la communication non violente, si je dis pas de bêtises, c'est reformuler la situation, exprimer toi ton ressenti, sans accuser la personne, exprimer ton ressenti, et proposer potentiellement quelque chose d'autre. Donc, en fait, voilà, juste exprimer ses limites. Et il y a quelque chose de vraiment, au-delà d'être libérateur, mais de... qui renvoie à une posture beaucoup plus affirmée et sûre de toi, qui fait que tu te fais beaucoup plus respecter aussi dans tes relations.
Ouais, j'allais dire c'est pro en fait.
Ah ouais.
Au moment où on parle là, c'est le lendemain de un séminaire qu'on anime justement sur ça, où je n'ai pas été pour la première fois de mon expérience entrepreneuriale. Je ne suis pas allé au propre séminaire que j'organise parce que mon associé et une autre coach ont
bon
pris
séminaire.
Ma place. C'était
excellent.
Formidable. Ouais. Mais effectivement, je trouve que c'est un point important de se dire... Parce que ce que tu déconstruis en nommant ça, là, c'est que c'est pas au service de ton client.
Non. Et de la relation.
Et de la relation.
Ouais.
Alors qu'on pourrait avoir la perception de se dire « Ah mon Dieu, si elle veut ça, et que moi, je viens dire « Ah non, mais c'est pas OK, voilà ma limite », on se dit « C'est pas au service de la personne, et donc elle va nous lâcher, plus vouloir bosser avec nous. » Alors que c'est presque l'inverse.
La personne se sent plus... Enfin, souvent, en tout cas... se sent plus, de ce que j'ai constaté, accompagné,
ouais.
encadré. Et vraiment, ça fait un peu cet effet de « Ah oui, cette personne, elle sait de quoi elle parle. » Et puis, elle est capable de me dire « Merde, si je fais de la merde. » et en fait, ça... Enfin, encore une fois, c'est pas des vérités générales, mais je pense que ça... C'est plus au service de tout le monde, quoi.
Bien
du
sûr.
Client et de la cliente aussi, d'être capable de dire « Bah ouais, non, ton truc... clairement, je sais pas moi.
Ce nombre d'allers-retours, cette voilà. deadline, en fait, c'est pas ok parce que.
Ou faire du travail gratuit avant de signer un contrat, enfin, ce genre de choses, non,
ouais.
en fait.
Ouais. Et je trouve que c'est hyper. Enfin, j'ai vraiment envie que les gens qui nous écoutent ancrent ce truc de. C'est au service de la relation. On mmh. gagne ensemble quand les gens posent leurs limites parce que.
Oh, j'ai un truc. Ouais.
Si jamais tu ne respectes pas ta limite à toi et que tu y vas quand même. Même inconsciemment, tu vas le faire payer à l'autre d'une manière ou d'une autre parce que peut-être tu vas être moins investi dans ton travail parce que t'es en mode « Ah putain, ils me font chier, nanana mm. ». Peut-être que du coup, tu vas travailler dans de mauvaises conditions parce mm. que trop fatigué, trop stressé
ouais.
et donc tu vas pas faire ton meilleur taf. Donc, mm. c'est ni à ton service ni à celui de ton client. Enfin, tu vois, il y a plein de répercussions du fait de ne pas respecter ses propres limites.
Et j'ai envie de partager autre chose qui m'est venue là sur justement la joie qu'il y a à recevoir aussi un nom qui est hyper aligné. J'ai une relation d'affaires avec une cliente que j'adore. Enfin, franchement, la collaboration, c'était trop bien. Et il s'est avéré que, voilà, au bout de quelques mois, pour des raisons business, de priorité, etc., etc., la collaboration n'était plus au service de sa boîte. Et du coup, voilà, elle me l'avait plus ou moins dit. On avait fait un appel, mais je sentais qu'elle était hyper mal à l'aise, hyper... voilà.
Ouais, parce que c'est dur de dire non.
Ouais, ouais, ouais. Elle se sentait un peu responsable de moi et je pense qu'il y avait un truc de elle m'appréciait en tant que personne, donc elle voulait pas que je le prenne personnellement et tout. Et du coup, on a eu une conversation. Je disais, mais au contraire, enfin, merci. Et puis merci, je vois tout le soin que tu mets à interrompre notre relation. En tout cas, dans ce cadre-là, ouais. notre relation dans ce cadre-là. Ça veut pas dire que la relation en elle-même est terminée. Ça veut pas dire qu'on ne rebossera pas ensemble. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire d'autres partenariats ou juste, j'en sais rien, juste rester en contact parce qu'on s'aime bien, tu vois,
ouais.
et parce qu'on partage des valeurs et plein de choses, en fait. Mais au contraire, et je sais que je l'ai revue au gala, et elle m'en a reparlé, elle m'a dit, mais vraiment, merci. Enfin, c'est la première fois que, moi, toutes les expériences de rupture, de collaboration que j'avais eues, étaient très, très négatives et très
ouais.
culpabilisantes. Et je, enfin, voilà, ça met dans une position que je déteste en tant que chef d'entreprise. Et je lui ai dit, mais moi, au contraire, enfin, je me souviens quand vraiment, c'est le moment. D'ailleurs, j'étais tellement en joie de ressentir ça. J'avais arrêté l'appel et j'avais envie de pleurer, mais de gratitude. Et je me disais, mais c'est incroyable. Genre, j'en arrive à un point où, genre, les gens, enfin, le fait qu'il y ait des ruptures dans ma vie me gonfle de joie, quoi.
Ouais.
Parce que la personne, enfin, parce que c'est un vrai non et que je préfère que la personne elle me dise bah non voilà juste j'ai adoré bosser avec toi c'était trop cool mais aujourd'hui on arrête et puis bah on verra demain tu vois plutôt que la personne se force et des non-dits finalement ça se fasse sur un échange d'email à l'arrache parce qu'elle ose pas me le dire ou j'en sais rien tu vois et la relation périclite parce que manque de transparence et manque de, ouais. de dialogue autour de ça là vraiment et puis alors enfin c'était vraiment hyper constructif aussi, tu vois, elle a pu me dire, bah clairement, il y a une partie de ta posture où j'avais du mal à t'intégrer dans l'équipe, par exemple, j'avais du mal à respecter tes limites et en même temps, moi j'avais un besoin de
ouais.
de présence vraiment quotidienne et constante. Ouais. Donc, enfin, il y a des choses aussi où c'est être capable d'entendre que les gens puissent dire non sans que ça veuille dire quelque chose personnellement de toi, même si, bah forcément, enfin moi ça m'a fait réfléchir sur
oui, ton offre, ta posture,
exactement.
Est-ce que t'apportes
et puis est-ce que j'ai envie ou pas d'être dans cette posture-là, est-ce que justement j'essaie de travailler sur ça parce que j'ai envie plutôt d'être dans ouais. une nouvelle posture ou est-ce que bah, simplement c'est parce que j'ai envie d'être comme collaboratrice et c'est ok aussi en fait.
Ouais.
Mais du coup, voilà, même le fait de recevoir des noms alignés, vraiment, c'est des expériences hyper joyeuses, je trouve.
Ouais, grave. Et je pense.
D'où l'importance du consentement et d'apprendre à dire un vrai oui ou à dire un vrai non, recevoir un vrai oui, recevoir un vrai non et prendre soin de ça, quoi.
Et enfin, je trouve que ce que tu mentionnes là, quelque part, on pourrait le mettre sous cette étiquette qu'on a ouverte un peu plus tôt dans la conversation de marketing éthique.
Tout à fait, j'avais envie de le...
Voilà, le jour où cette personne se dit « j'ai besoin de quelqu'un comme Valentine, avec sa posture, le rôle qu'elle peut jouer, etc. » etc. Du fait de la qualité de votre rupture, a priori, il y a de grandes chances que la personne se retourne vers toi en disant « mais en fait, c'est avec elle que je veux bosser, quoi. »
Ouais, c'est ça en fait, c'est aussi essayer d'envisager les relations donc d'affaires professionnelles avec les clients ou même dans la vie intime amicale, amoureuse, tout ce que vous voulez, comme des, c'est pas un truc qui est forcément un début et une fin, quoi. C'est pas genre ah on a décidé de se mettre en couple, la relation se passe, ah bah boum c'est une rupture et ben on se reverra plus jamais, et, il faut forcément qu'on arrête de se parler, etc. Pareil dans les relations, enfin j'ai l'impression que tout est très linéaire dans dans toutes les relations, enfin dans la façon dont on a de vivre les relations, là où j'ai envie de croire et je le fais de plus en plus, même si bien sûr c'est un peu plus, enfin c'est toujours une construction.
Dans une relation il y a deux personnes, donc si t'es la seule à avoir une relation comme
aussi.
Ça c'est dur.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis il y a aussi des trucs où on est élevé à penser comme ça les relations, donc c'est pas toujours évident de réinventer des cadres relationnels différents, mais la relation elle peut être on décide d'être amis un jour. Finalement on se plaît, on va faire quelque chose, on va essayer de créer un couple, finalement ça fonctionne pas, c'est pas grave, on redevient amis, et puis peut-être qu'on arrête de se parler pendant un temps, et puis qu'après on va bosser ensemble, et puis enfin tu vois, il peut se passer mille trucs dans une relation.
Ouais.
Et c'est pas forcément parce qu'il y a une personne dit dans ce cadre de relation je m'épanouis plus et j'ai envie qu'on change, que ça veut forcément dire t'es un monstre, t'es une personne horrible et plus jamais je ne veux avoir affaire à toi et je te souhaite tout le malheur du monde, quoi.
Ouais.
Il y a tellement, tellement de choses entre eux.
C'est clair. Et je pense que là aussi, tu parles de ce qu'on se dit beaucoup depuis le début de l'épisode et de notre discussion, qu'on a besoin de nouveaux récits. On a besoin de nouveaux récits de comment entrevoir nos relations, de nouveaux récits sur deux autres sujets que tu as mentionnés. Et pour continuer notre conversation, j'ai envie de te tendre, pas deux pilules, une pilule rouge, une pilule bleue, parce que du coup, ça serait chelou d'utiliser des pilules. Donc, je vais te tendre deux crayons. Il y en a un bleu, il y en a un rouge. Chacun représente un sujet. Et je vais t'inviter à choisir par lequel tu souhaites commencer pour construire des nouveaux récits. Très bien.
J'adore ce jeu.
Pour commencer avec le crayon rouge, du coup, Valentine a choisi la pilule rouge.
Allez.
Est-ce qu'on reste dans la Matrix ou est-ce qu'on sort ?
C'est quoi ? Dans Matrix, c'est la pilule.
Je me souviens plus de l'ordre, mais les gens qui nous écoutent peut-être
je
nous le diront.
Il n'y a pas longtemps en plus. Mais...
Donc, pour commencer cette conversation, je vais te lire un de tes récents posts LinkedIn
sujet. Je vais juste remettre mon pull, donc je vais enlever
forcément.
Ça.
Forcément, très bien, remets ton pull.
C'est froid.
Je sais pas encore si je vais couper ce genre de moments au montage ou si je vais les conserver. Parce que c'est quand même assez agréable de se dire, voilà, on est des êtres humains, on discute, on remet son cul. C'est bon, tu es confortable ?
Oui, je suis bien.
Super.
Merci.
Donc c'est un post LinkedIn récent. Et j'ai une question qui va avec à la fin. Février 2023. Le diagnostic est posé. Je suis folle. L'étiquette clinique, c'est « trouble de la personnalité ». Un cocktail foireux d'instabilité émotionnelle, de peur de l'abandon plus et de tendance autodestructrice. Sexiest bunny in the room, I know. Après le diagnostic, je suis traité et suivi 9 mois. Et pour la première fois, je découvre la paix. Alors, avec l'accord de mes psys, j'arrête le traitement et j'écarte les séances. C'était il y a 3 mois, le constat est amer. Aujourd'hui, mes réussites sont vides, sans joie ni consistance. La moindre difficulté... En revanche, est un autobus qui me roule dessus. Mes émotions sont décuplées. Le quotidien est redevenu invivable. Je suis exténué de me battre contre moi. Sans pilule, mon cerveau déraille. Et cette pilule-là est dure à avaler. Si je t'en parle, ce n'est ni pour glamouriser les pathologies mentales, ces saloperies sont infernales et elles tuent, ni pour demander de l'aide. J'ai déjà l'entourage le plus aimant et solide au monde. Je le fais parce que je ne suis pas seul. Je vois la honte d'admettre qu'au naturel, mon cerveau est un purgatoire. Je sens la peur de vivre avec l'étiquette « sous traitement à vie » collée sur le front. Et je sais que ces peurs-là ne parlent pas que de moi. Elles me rappellent combien nous manquons de récits pour dire des réalités atypiques. Combien je manque encore de représentations pour déculpabiliser mes différences, parler d'espoir et accueillir la joie dans cette obscurité-là. C'est quoi le récit qui manque aujourd'hui, Valentine, pour que tu vives mieux les choses ?
J'adore. Je suis désolée, mais j'adore.
Heureux de savoir que le nouveau format du podcast te plaît.
Ah, je te jure, déjà de se réentendre lire par quelqu'un d'autre, ça fait quelque chose. Et alors la transition sur la petite question là, journalistique, je meurs, j'adore. Quel est le récit ? Le récit ? Je pense que j'ai besoin d'une pluralité de récits. Je pense qu'on a, socialement, on a tous besoin d'une pluralité de récits. J'ai besoin d'entendre parler Mais de vie plus nuancée. J'ai besoin que les gens qui vivent des discriminations parlent. J'ai besoin que les gens qui traversent... Enfin, si, bien sûr. Consenti,
oui, bien
et
sûr.
Voilà, hein, je ne force personne à publier quoi que ce soit, mais dans l'idéal, moi j'aimerais bien qu'on partage plus de récits qui sortent par exemple de l'hétéronormativité. Moi j'aimerais bien avoir plus d'histoires d'amour entre plein de. Enfin, tout type de relations amoureuses, que ce soit asexuelles, bisexuelles, homosexuelles, peu importe en fait. J'aimerais bien juste qu'on propose d'autres choses, d'autres façons de s'aimer, des récits d'amour qui ne sont pas le récit hétéronormé, patriarcal de madame et monsieur tombent amoureux et puis ils vont... ils tombent amoureux après. Ils font un premier date, ils font un bisou, ils font l'amour, là, ils peuvent tomber amoureux. Une fois qu'ils sont tombés amoureux, ils ont le droit d'aller vivre l'un chez l'autre pendant quelques temps, puis après, ils ont le droit d'acheter une maison, enfant, le chien, et voilà.
Le fameux escalator relationnel.
Mais c'est ça. Et en vrai, on peut s'en moquer autant qu'on veut. Moi, j'ai encore un mal fou à en sortir de ce truc. Et je sais que quand j'en parle... Enfin, j'en parle beaucoup, ça, avec à chaque fois les débuts de partenariats amoureux que j'ai qui ne mènent nulle part. Mais j'ai du mal à réinventer quelque chose derrière parce qu'il y a un manque de récit, parce que ça paraît bizarre, parce que on continue à te dire mais quoi, mais t'es resté pote avec ton ex, mais trop bizarre ton truc, non mais enfin. Parce que tout ça, donc oui, déjà des récits d'amour et puis des récits de... Ben, en fait, j'aimerais bien qu'on représente des gens comme moi aussi, en fait. Et pas que comme moi, mais comme... Enfin, j'aimerais bien qu'on puisse me montrer des gens qui ont des santé mentale, je sais pas, qui sont par exemple schizophrènes, et en fait, comment on vit avec une schizophrénie au quotidien, et comment est-ce que nous aussi, en tant que personnes non concernées, on peut accueillir, comprendre autant que possible et être présent pour ces personnes-là. Pareil pour les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme. Enfin, il y a plein de récits, en fait. Quand tu sors du récit classique de... le couple hétéronormé, la santé mentale classique, la vie professionnelle classique aussi de... Tu fais des études ou pas, t'as un métier, tu le détestes, et puis tu continues parce que c'est comme ça et que c'est la vie. Et qu'est-ce qu'on peut créer autrement, quoi? Est-ce que j'ai répondu à la question? En fait, j'aimerais plein de récits, plein de trucs, et de plein de gens différents. Et qu'on arrête. Et moi, la première, hein. Enfin, je sais aussi que je suis tout à fait consciente que le fait que je sois une femme blanche qui rentre dans les critères, voilà, je ne suis pas ni gros, enfin, je ne suis pas grosse d'ailleurs. Je suis blonde aux yeux bleus, je suis blanche, enfin, voilà, tous ces critères-là font aussi que, je suis privilégiée et potentiellement je prends plus de place, hein, je suis plus écoutée que des personnes qui vont porter le voile, qui vont malheureusement subir des discriminations systémiques et aussi avoir beaucoup moins de visibilité. Je sais qu'il y a une difficulté à parler de ça et à parler de soi et aussi, même quand on le fait, à parfois avoir la place qu'on demande. Mais moi, dans l'idéal, c'est tous ces récits-là que je veux, quoi. Qu'on parle de plein de choses, plein de gens.
Parce que voilà. Il y a un événement qui est arrivé dans notre écosystème il y a un moment déjà, je me souviens pas exactement.
Avril de l'an dernier. Ouais.
Et je me souviens que c'était justement le décès d'une personne qui a le même diagnostic que toi, qui prenait beaucoup la parole en ligne pour en parler. Et je sais que ça te faisait beaucoup de bien de te sentir rejointe dans ton expérience. Et quand cette personne est décédée, je sais que ça a justement été quelque part un effondrement d'un repère que tu avais parce qu'un récit comme le tien.
Je vais peut-être préciser, parce que je pense que la précision est importante aussi. Du coup, la personne en question a mis fin à ses jours. Ce qui a aussi été forcément, voilà, on parle de moi et de mon vécu individuel, hein. Je ne peux absolument ni parler au nom de sa famille, de ses proches, d'elle-même, voilà. Moi, cette personne avant ça, donc elle-même trouble de personnalité que moi, quand j'ai eu le diagnostic, c'était la première personne vers laquelle elle et la carologie, Caro de la carologie, que j'adore aussi, qui est une créatrice de contenu plutôt sur YouTube et Instagram aussi, mais et qui parle, enfin voilà, c'était les deux modèles que j'avais de personnalité qui entre guillemets, réussissaient leur vie dans le sens où elles arrivaient à être aimées, entendues, elles faisaient du bien aux gens.
Font des projets.
Voilà,
elles
avaient des projets, elles faisaient des trucs chouettes, de personnes comme ça, qui vivaient une belle vie quand même. avec ce trouble-là. Et du coup, et d'ailleurs, c'est, enfin, moi, quand j'ai eu le diagnostic, j'ai eu pas mal de temps, enfin, pas mal de temps. En vrai, non. Mais pour moi, ça a mis du temps avant que je commence à en parler publiquement. Et je sais que je m'étais dit que justement, en fait, je voyais bien combien moi, dans mon diagnostic, le fait d'avoir des modèles, ça m'avait permis de m'accepter et d'accepter le diagnostic et d'avoir beaucoup plus d'amour et de compassion envers moi. Parce que ces personnes-là, je les connais pas, mais j'avais de l'amour pour elles. Enfin.
Ouais.
Caro de la Carologie, enfin, cette meuf, je la suis depuis des années. Elle m'a tellement accompagnée dans plein de déclics féministes. Enfin, c'est une personne passionnante, quoi. Et je sais que je la connais, elle me connaît pas du tout. On se connaît pas, mais on a une vraie relation parasociale pour moi, tu vois. Mmh. C'est quelqu'un qui m'a fait du bien et ça m'a fait du bien de me dire, ah bah, finalement, oui, c'est peut-être pas le truc le plus sexy du monde, cette étiquette-là, mais je peux me reconnaître dans des gens que j'admire. Et forcément, du coup, c'est en partie dans cette réflexion-là que j'avais commencé à en parler. Et effectivement, le jour où il a été...
On
a appris qu'elle avait malheureusement mis fin à ses jours. Y a un truc qui... c'est difficile d'en parler parce qu'il y a toujours ce truc de « je suis qui pour me plaindre de ça ?» alors que... c'est pas quelqu'un que je connaissais ou que je...
bien sûr
voilà, mais ouais, il y avait un truc de c'est un peu dur quoi d'avoir un de tes modèles, quelqu'un qui te retrouvait beaucoup quoi et qui t'inspirait, qui fait ces choix là parce que ça te rappelle à typiquement le trouble de la personnalité borderline, c'est une personne sur 10 qui est diagnostiquée avec ce trouble qui met fin à ses jours. Donc c'est, je sais plus combien de fois, plus élevé que la population normale, mais voilà, on est quand même sur une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et un peu ce truc de, si tu prends pas soin, c'est grave, quoi. Ça peut avoir ça peut être très, très grave pour toi et pour tes proches. Et donc ça a été très dur et à la fois, ça m'a peut-être un peu mis dans ce truc de, je sais, c'est pas tellement une responsabilité parce que je me sens pas responsable, de me rappeler combien c'était important d'avoir des modèles joyeux. Et c'est pas du tout, je ne pointe pas du tout du doigt l'histoire de Florine.
Non, l'idée c'est...
rien, mais que c'est cool d'avoir plusieurs... plein de récits et peut-être des récits avec de la joie et en même temps beaucoup de vulnérabilité.
En tout cas, ce que je retiens, c'est à quel point on a, je pense, tous et toutes, surtout quand on vit des choses qui sont peu représentées dans le récit dominant, public, médiatisé, on a besoin de points de repère, on a besoin d'avoir quelque chose sur lequel se tenir. Et que quand ces choses sur lesquelles on se tient, notamment, comme tu dis, le fait de t'identifier à ces personnes, de te sentir proche parce qu'un vécu similaire, quand ça s'écroule, c'est hyper difficile à vivre, quoi. Et effectivement, ça ne veut pas dire que telle ou telle personne a bien fait ou pas bien fait.
Oui, non.
Il y a tout le respect du monde pour les décisions que chacune prenne, qui sont légitimes dans leur monde. Mais tu vois, je comprends à quel point pour toi c'est dur à vivre, quoi.
Ouais, ça avait été assez remuant. Et c'est pour ça que je me dis que...
On a besoin de récits, du coup.
Ouais, et de beaucoup, en fait.
Oui.
Et puis même, pas forcément dans un objectif d'identification. Là, on parle vraiment d'un truc très spécifique, de quelqu'un qui a un trouble qui n'est pas très représenté dans le monde, etc. En France. Tu vois, moi, j'écris sur ça et il y a plein de gens qui ne sont pas du tout borderline ou qui n'ont pas de trouble de la personnalité, chez qui ça fait écho. Et pour qui ça fait du bien de dire, surtout qu'il y a vraiment un effet, enfin, tu me diras, je pense que c'est pareil pour toi, mais quand tu crées du contenu, quand t'as une boîte et quand ça fait un petit peu de temps que t'es sur Internet, les gens idéalisent ta vie.
C'est clair.
Mais c'est un truc de malade. Je pense que vraiment, et des fois, je parle à des gens, je me dis, mais ils s'imaginent que je roule en Ferrari et que j'ai une liste d'attente de clients sur 6 ans, tu vois. Je me dis, c'est impressionnant. Et en fait, il y a un biais, je pense, de starification qui se fait quand tu parles de toi sur les réseaux, qui est ce qu'il est, hein, mais du coup, rarement la réalité, hein, faut le dire aussi. C'est normal, on peut essayer d'être aussi authentique qu'on veut. Il y a un moment, tu choisis des informations, tu racontes pas tous les détails de ta vie de A à Z et parfois, t'as pas envie de le faire.
Et puis, lit 100% de nos contenus.
Bien sûr, en plus.
Donc, les gens remplissent les blancs, c'est naturel, c'est évidemment. Le fonctionnement du cerveau, quoi.
Et du coup, c'est vrai qu'avoir des trucs un peu plus vulnérabilisants ou juste montrer une part d'humanité et les difficultés que tu traverses ou, tu vois, des personnes qui peuvent traverser un épisode de dépression et lire ça, ça peut leur... bon, ils sont pas borderline, mais ils peuvent se retrouver sur certains des trucs que je partage. Et encore une fois, ma vie intime à moi, individuelle, très spécifique de Valou, qui a bientôt 29 ans, et qui est borderline, ben, ça peut connecter avec la vie de Thomas, qui n'a pas de pathologie mentale diagnostiquée, en tout cas. Je sais pas, donne-moi des caractéristiques de ta vie.
Après, moi, je pense que je suis dans une position particulière où j'incarne l'immense majorité des privilèges qu'on peut avoir, quoi. Je suis un mec blanc, cisgenre, hétéro, grandi dans un pays de l'Ouest.
Oui.
Et en même temps, comme tu le dis, ça fait écho. Bon, après, moi, j'ai sensibilité particulière à ce sujet. On ne ferait pas ce podcast s'il n'y en avait pas, je pense. Je ne veux pas être ce podcast qui maintient que les discours classiques, quoi. Mais c'est clair que moi, ça me touche beaucoup quand tu parles de ça. Genre, ce post que j'ai lu juste avant, quand je l'ai lu dans la préparation de l'épisode et que je l'ai vu passer sur LinkedIn, ça me touche. Et pour raconter une petite anecdote qui m'a surprise quand c'est arrivé, j'ai regardé récemment la dernière saison d'une série sur Netflix qui s'appelle Sunderland Till I Die. Donc, c'est une série documentaire sur le club de foot de Sunderland en Angleterre.
Okay.
Et ce qui se passe à ce club de foot. Et en gros, dans l'histoire, le club passe de la meilleure division à la troisième et galère de ouf à en sortir. Et ça suit beaucoup l'histoire des supporters en lien avec leur relation au club et aux résultats du club. Mmh. Et Sunderland, c'est une ville en Angleterre très pauvre, où les gens ont peu de ressources, peu de moyens. Et il y a une scène dans la dernière saison où ils suivent un supporter qu'on voit depuis le début des trois saisons qui décide de déménager pour payer moins cher son loyer, pour pouvoir continuer d'aller au foot. Et tu vois que toute sa vie, économique, enfin tout, est organisé pour le seul truc qui lui crée de la joie dans sa vie, qui est d'aller au stade. Et j'ai chialé. Parce qu'en fait, je me suis dit, et même là, je sens que ça m'émeut, genre, c'est ouf à quel point... Il y a des gens, ils ont besoin de ça, quoi. Ils ont besoin de petites choses toutes simples comme le sport, le foot, d'aller voir des gens courir sur un terrain, comme une assise et un socle pour se sentir bien dans leur vie. Et je me dis, genre putain, il faut qu'on prenne soin des gens comme de ce genre de personnes, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on n'optimise pas tout dans notre manière de vivre en tant que ville, village, nation, monde, pour que tout le monde puisse se sentir bien. Et c'est pour ça, je pense, ça me touche particulièrement parce que, tu vois, je me dis, moi, ma vie par rapport à cette personne que tu vois, genre, prendre des décisions comme ça pour le truc qui leur fait du bien, genre, j'ai tellement de chance de où j'en suis dans ma vie, quoi.
Je pense qu'il y a un truc de communauté aussi que j'entends dans ce que tu dis. Je pense que cette personne, ou en tout cas ce supporter-là, c'est au-delà de juste suivre une équipe de foot.
C'est appartenir
à une communauté. Et du coup, effectivement, nous, on peut faire le lien avec effectivement prendre soin des gens qui font partie des communautés de chacun et chacune, que ce soit communauté sur Internet ou communauté dans le village ou dans les gens que tu vois au sport ou enfin tu vois communauté dans le sens large, toutes les personnes avec qui tu as un sentiment identitaire fort quoi qui vous lie. Et je pense dans l'entrepreneuriat en ligne, ça peut être d'arrêter d'imaginer enfin et c'est normal hein, c'est un biais je pense on l'a tous mais c'est pas que des chiffres les gens qui nous suivent, qui nous commentent, qui mettent des likes, qui ce que tu veux. C'est plein de petites personnes avec des histoires de vie hyper complexes et pour qui ton récit a vraiment, enfin, peut avoir un vrai impact. Et je pense que des fois, moi je parlais de la carologie, je la suis depuis que j'ai 20 ans, je crois, j'en ai 29 bientôt aujourd'hui. Et je sais qu'il y a plein de trucs où c'est elle qui a eu un impact sur ma vie, quoi. Je sais que pendant 10 ans, je me maquillais. Parce que j'étais une meuf et qu'il fallait se maquiller, que j'aimais pas ma gueule et voilà. Et puis un jour j'ai vu une vidéo où elle disait qu'elle arrêtait le maquillage et qu'il y a eu une phrase qu'elle a dit, juste une phrase où elle disait un jour j'ai réalisé que je m'excusais devant mes potes de pas m'être maquillée. Désolée aujourd'hui je me suis pas maquillée. Et je me suis entendue le dire, je me suis dit mais c'est vrai, à quel moment j'en viens au stade où je m'excuse d'avoir mon visage. Un mec jamais de sa vie va venir te voir en disant « Oh, désolé, je suis moche aujourd'hui. » Non mais, tu vois, ça n'existe pas, tu vois. Et du coup, à partir de là, effectivement, j'ai arrêté de me maquiller et tout. Et bon, ça faisait partie des premiers petits trucs que j'ai fait peut-être pour... Je dis pas qu'il faut ou pas ou machin, mais en tout cas, moi, ça a fait du sens pour moi à ce moment-là. Et tu vois, cette petite phrase, Aujourd'hui, je me maquille une fois tous les mois parce que ça me fait kiffer, que je vais en soirée et tout, machin. Mais au quotidien, je me maquille plus et j'ai réussi à, et ça a été long, un peu difficile de me réapproprier mon ouais. visage, toutes les remarques sur t'es fatiguée, t'étais mieux avant, pourquoi t'arrêtais de te maquiller, enfin bref. Et du coup, cette personne-là, voilà, elle a planté une graine et ça a quand même changé un aspect de ma vie, tu vois. Ouais. Et elle me connaît pas et c'était il y a 9 ans et je m'en souviens encore. Et je sais que, bah, c'est, comme je te dis, ça a été un des premiers pas dans le féminisme, même si évidemment, ça vaut pas ne pas se maquiller pour être féministe, hein, c'est pas ça que je dis.
Oui. Mais c'est intéressant ce que tu mentionnes, parce que je pense que ça parle de notre second petit stylo et des récits dont on a besoin là-dessus, donc je vais te le tendre aussi.
Allez, give it to me.
Qui est le stylo, là on était, je pense, les gens l'ont compris, sur le stylo de la neuroatypie et des récits dont on a besoin là-dedans pour mieux le vivre. Et là on passe sur le côté marketing éthique. Mm-hmm. Tu as mentionné un truc qui me parle beaucoup là, qui est sortir de la perception que telle personne en face de moi, c'est une opportunité relationnelle parce que elle peut me donner des finances et elle peut acheter mon offre. Et se souvenir, comme tu dis, chaque personne en face de nous, chaque follower qu'on a sur Instagram, c'est une personne avec des rêves, des aspirations, des émotions, une vie aussi complexe et problématique que la nôtre. Et je voulais mentionner, pour démarrer cette discussion sur le marketing éthique, un livre qui, je pense, constitue une grande partie du récit dominant sur le marketing que beaucoup d'entrepreneurs lisent au début. C'est Influence et Manipulation.
Je l'ai.
Et on l'a lu. Je sais que tu l'as lu, que je l'ai lu.
Qui est intéressant, en vrai.
Qui est intéressant. Mais je suis curieux de... Si on part de ce livre, qui, je pense, est un récit dominant sur comment influencer nos relations, comment on tire ça vers l'éthique.
Donc si on reprend ce livre, si on le réexplique en deux phrases, en gros c'est des études, alors je crois qu'il est sociologue, je sais plus, psychologue, enfin bref, je ne sais plus ce qu'il fait dans la vie, comment il s'appelle déjà ?
C'est Cialdini.
Merci, Robert Cialdini. Et du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il présente donc, ce qu'on peut appeler des biais de consentement, finalement, les plus gros biais de consentement, donc ce qui peut biaiser le fait qu'on dise un vrai oui à une proposition. Si on le résume rapidement, ou qu'on n'ose pas dire un non alors qu'on a envie de dire non à une proposition. Et il résume les plus gros biais du consentement, donc qui sont ceux que dans le marketing, on... voilà,
qui sont souvent exploités pour faire en sorte que les gens disent oui plutôt que non.
Voilà. Et donc il présente ces biais du consentement-là. Et effectivement, il y a beaucoup de marketeurs, beaucoup de marketeuses qui vont les utiliser. Comment dire ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser. Je pense que... Je vais réfléchir à ma phrase.
Mais tu vois, le fait que tu hésites là, c'est justement, je trouve, la représentation de la complexité de ce sujet.
Mais
parce
oui. Je dis pas qu'il faut. Enfin, ce serait complètement faux de dire que dans le marketing, il faut. Typiquement, ce livre, moi, j'invite à le lire. Et au contraire, ne serait-ce que pour avoir conscience des biais qui peuvent être les nôtres dans la situation où on va acheter quelque chose, etc., où on nous propose quelque chose. On parle d'achat, mais ça peut être des relations, ça peut être plein de propositions.
Ouais.
Mais aussi dans ce qu'on peut proposer à notre audience et comment ça peut l'influencer. Je dis pas qu'il faut pas les utiliser, parce que des fois, en plus, ça peut être des leviers légitimes de prise de décision d'achat. Sur l'instant, je pense à l'urgence par exemple.
Oui.
Si tu as un accompagnement qui va durer 3 mois et qui commence le 1er mars, ça sert à rien de vendre les places de ton truc le 12 mars pour que la personne elle débarque, elle sait pas ce qu'elle fout là, elle a déjà loupé 2 coachings, c'est pas son service non plus. Donc effectivement, faire un lancement en précisant tu as jusqu'au 28 février pour nous rejoindre parce que c'est une réalité, ça va faire que si elle a envie de rejoindre ton accompagnement, elle va le faire maintenant. Alors que peut-être que dans l'idéal, elle aurait attendu encore un mois, j'en sais rien, tu vois. Mais ces biais-là, ils existent, ils sont... Enfin, c'est toi qui utilises tout le temps le... Il y a une image là, comme ça, qui reprend tous les biais du consentement.
Ah oui, c'est tous les biais cognitifs qui existent et qui ont été trouvés par la science. Sur Wikipédia, il y a un schéma incroyable que je rêve d'avoir dans mes toilettes pour mieux les comprendre et soit les utiliser à bon escient ou en tout cas s'en protéger. Mais tu dirais que c'est quoi du coup le critère ? Comment on fait ? Si je suis sur, par exemple, tu as mentionné celui sur l'urgence qui est très utilisé dans les techniques de marketing en ligne. Il y a la fausse urgence, il y a la vraie urgence légitime. Comment tu tranches ? Genre, comment je sais dans quelle catégorie je suis ? Est-ce que je suis sous l'emprise du récit dominant de voici ce qu'il faut faire dans mon marketing ? Ou est-ce que je suis dans une influence éthique presque ?
Je pense qu'un truc qui est intéressant, en fait, finalement, c'est toujours, on en revient toujours un peu au même sujet, hein, mais de se reposer la question de comment est-ce que je récolte le consentement des personnes qui viennent, enfin, qui veulent acheter chez moi. Est-ce que je m'assure que le consentement est, alors, il y a 5 caractéristiques, je vais essayer de pas les louper, mais informé. Donc, justement, informé, ben, ça implique que la personne sait que, ben, dans mon accompagnement commence le 1er mars et pas, et que je suis pas en train de mentir et de prétendre que ça commence le 1er mars.
Alors,
que c'est ouvert,
n'importe
voilà. Donc informé, donc ça implique effectivement de ne pas mentir. Il y a quoi? Il y a joyeux, je sais, aide-moi. Attends,
alors,
informé,
informé ou éclairé, on peut utiliser ces deux termes.
Révocable. Mm-hmm. Donc ça, évidemment, ça, enfin, la partie révocabilité du consentement dans les relations d'affaires, on part du principe quand même que elle est totalement libre et sans condition jusqu'à ce qu'il y ait un engagement contractuel, parce que bah, y a une réalité juridique derrière qui se fait aussi. Et puis bon, bah, une fois que la personne s'est engagée à travailler avec toi, que l'engagement, enfin que la relation d'affaires soit révocable ou pas dans certaines conditions, ça peut être encadré par un contrat. Mais avant ça, la personne peut dire oui, peut-être, non, en fait, ah bah non, finalement.
Jusqu'à signature.
Jusqu'à signature. Donc révocable, libre, éclairé, on a dit.
Donner librement, c'en est un, parce que il y a éclairé, donc c'est j'ai toutes les informations.
Oui,
et donner librement, c'est je ne suis pas sous l'emprise de quelque chose qui m'incite à dire
notamment,
oui.
On parlait plutôt de l'expérience que j'avais pu avoir avec quelqu'un que je considérais comme plus avancé et avec beaucoup plus d'influence dans mon milieu que moi. Ça, c'était ce qu'on appelle un biais d'autorité.
Oui.
Donc j'étais, en gros, il y a des moments où je me disais, il faut que je dise oui, j'ai pas le choix que de dire oui, parce que cette personne a un biais d'autorité envers moi et peut, bah, déjà, voilà, je la considère comme étant supérieure à moi en termes d'autorité. Et en plus, elle peut avoir un impact sur ma réputation, etc., dans le marché.
Comment on déconstruit ça, du coup ? Genre, qu'est-ce que, dans cet exemple que tu as vécu, par exemple, qu'est-ce que moi, en tant que vendeur, marketeur, je peux faire pour éviter que les gens achètent par biais d'autorité, si ce n'est pas vraiment aligné ?
Très intéressant. Alors ça, je pense vraiment, c'est au cas par cas. Parce qu'il y a toujours une part de biais d'autorité. Il ne faut pas se mentir. Il y aura toujours un truc où... mais comme je te dis, en plus, il y a l'effet starification sur les réseaux qu'on ne contrôle pas non plus.
Oui.
Où tu peux être le plus vulnérable et voilà, transparent au monde. Et c'est même pas forcément une nécessité, mais tu peux être hyper transparent et vulnérable et essayer de ramener le curseur en mode ne m'idéalise pas, en fait. C'est pas parce que j'ai 5000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes, 100 000 personnes qui me suivent que je vaux quoi que ce soit de plus pour toi, en fait. Donc il n'y a pas d'autorité qui joue, il n'y a pas de biais hiérarchique, tu vois, entre toi et moi. Bon, il y aura toujours ce truc-là qui se jouera malgré toi, malgré tout le soin que tu peux mettre. Je pense que c'est ça pour ça. L'idéal, c'est quand tu peux avoir des... Bon, ça dépend des offres, évidemment, mais je pense que d'avoir des entretiens avec les personnes et justement de montrer la bienveillance et le soin, quoi, et de dire, toi, je sais que tu le fais beaucoup pour Surf, par exemple, un de tes programmes, où tu vois les gens en one-to-one et tu montres vraiment, tu crées un cadre où tu dis, bah, en fait, si c'est pas à ton service de venir chez nous, je te le dirai. Peut-être qu'il y a forcément un biais d'autorité envers toi, peut-être que les gens ont envie de travailler avec toi particulièrement et ils t'idéalisent un petit peu, ou tu vois, ils te valorisent en tout cas plus que la moyenne, mais ils vont sentir que leur nom est accueilli aussi. Donc je pense qu'il y a un truc où créer un cadre dans lequel tu dis que bah, toi en tant que personne, Thomas, avec je ne sais combien de followers et un business à plus de 6 chiffres, exactement, genre le gratin de l'entrepreneuriat en ligne, tu es capable d'accepter leur nom et au contraire tu les remercies pour leur nom. Je pense que ça, c'est, tu peux poser un cadre.
Ouais, c'est nommé. Souvent nommé, effectivement, je trouve que c'est une des super manières de... désamorcer tous ces trucs qui se passent de manière inconsciente et de dire, ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un truc comme ça qui se joue dans ta décision?
Et ça, par exemple, donc, je parlais d'entretien individuel, mais je viens de faire le lien. Évidemment, dans tout votre marketing en ligne, que ce soit séquence email, page de vente, etc., en fait, c'est, ça peut aussi être inclus dans ce marketing-là, c'est-à-dire éviter les discours culpabilisants, justement, qui vont de ouf jouer sur le biais de l'autorité, en mode moi je sais mieux ce qui est bon pour toi parce que j'ai cette posture.
Si tu n'achètes pas, tu
voilà,
vas
donc
échouer.
Si tu n'achètes pas, c'est d'autant plus, tu vois, un jugement fort pour la personne à porter que de se dire qu'une personne qu'elle admire potentiellement, qu'elle suit, qu'elle aime bien, qu'elle, voilà, qui l'influence d'une certaine manière, la juge d'autant plus, tu vois, de manière culpabilisante et tout.
Mais donc, je pense qu'il y a un truc qui se joue là-dedans, c'est que on peut se déresponsabiliser des conséquences de notre marketing.
Ah oui.
Là où parfois on se surresponsabilise des conséquences de notre produit.
Très intéressant.
Et
ouais,
je pense qu'il y a un truc comme ça qui se joue, c'est si elle n'achète pas, en fait c'est pas ma responsabilité, son expérience de vie. Même si elle a lu toutes mes newsletters,
Il y en a toujours responsable. Enfin, Oui, on est. Alors, on est. Je sais pas si je peux dire, on est toujours responsable des messages qu'on transmet. C'est pas vrai, parce que des fois, entre ce que tu transmets et ce que la personne reçoit, bon, voilà, parfois il se passe plein de choses et qu'on peut pas contrôler. Par contre, oui, il y a une forme de responsabilité dans les messages qu'on envoie à son audience, que ce soit dans la création de contenu ou dans le cadre de lancement très précis avec un objectif. Enfin, je parle de création de contenu sans objectif de conversion. Ou avec un objectif de conversion, les messages qu'on transmet, ils ont un impact et on est responsable de ça quand même. Hein.
Ouais.
Et ne serait-ce que, en fait, hein, même dans la relation d'affaires, encore une fois, en fait, ces techniques-là, pour moi, donc qu'on peut mettre sous le terme marketing bullshit, même, c'est personne ne va se dire dans le monde, je fais un marketing diabolisé et horrible et je suis un monstre, tu vois. Mais toutes ces techniques-là qui sont un peu border, c'est des techniques qui peuvent avoir un impact sur je vais vendre plus aujourd'hui.
Oui.
Par contre, qui vont potentiellement altérer la relation, l'expérience client et la relation que tu as avec ton client et faire que la personne ne re-signera pas chez toi, etc.
Demain.
Là où tous les chiffres le montrent, si on parle vraiment purement indicateur de performance capitaliste, ça coûte 6 à 8 fois plus cher de chercher de nouveaux clients plutôt que de fidéliser ceux qui existent déjà.
Ouais.
Donc en fait, laisser le temps aux gens, même si peut-être ils ne travailleront jamais avec toi, mais... laisser le temps et créer le cadre pour que les gens aient l'opportunité de dire oui quand ils ont vraiment envie de dire oui, c'est aussi le meilleur moyen de les fidéliser sur le long terme et de continuer à bosser sur le long terme. Et en termes juste purement thunes, moula et tout ce que tu veux, c'est ça qui, enfin, c'est aussi un actif,
ouais.
Vraiment purement financier de ton entreprise, de prendre soin de cette relation-là et de pas utiliser les biais de consentement qu'on a pu citer sans prendre soin de récolter un consentement qui est, donc je sais plus si on avait toutes les caractéristiques, libre, éclairé, révocable, blablabla.
Sur le consentement,
voilà. Et bien on vous renverra vers ce.
Mais tu as mentionné un point qui est hyper important et je pense qu'on va terminer sur ça, qui est laisser le temps. Comment je fais s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas le temps? Leur chômage se termine, ils n'ont plus de revenus. Ils ont besoin de cash maintenant, tout de suite, sinon on peut prendre un job à mi-temps, etc. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux?
Déjà, c'est pas la fin du monde de prendre un job à mi-temps. Il n'y a pas d'échec. Non, mais ça, c'est... moi, je dirais, dans ce cas-là, clairement, focus commercial et pas forcément marketing. Quand je parle de marketing, je parle de... Je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi la première, quand on commence, on a peur d'aller parler aux gens one-to-one, on a peur d'aller, voilà, d'introduire des conversations, d'être proactif dans ça, avec des personnes ciblées, etc. Et du coup, on va créer du contenu en attendant que les gens y tombent par magie dans nos DM. Malheureusement, ça arrive très rarement. Hein, ouais. c'est... En tout cas, si vous êtes vraiment en galère de thunes, c'est pas ce sur quoi il faut mettre le focus, à mon sens. Mettez toute votre énergie à identifier les personnes avec qui vous avez envie de travailler, à vous intéresser à elles sincèrement, en fait. Ouais. Et tu me disais dans le gala, et puis on a déjà fait un coaching, on a déjà parlé ensemble. Pas le gala, le catching, tu avais fait une intervention sur ça. Chercher des déclencheurs de conversation qui soient joyeux, pas pour vendre immédiatement. C'est là où. Si vous avez besoin de vendre demain, j'ai pas de technique pour vous. Enfin, c'est ça que je veux dire. Ça va forcément prendre un peu de temps.
Ouais.
C'est possible, hein, tu vois, mais c'est moins probable. Mais ce qui, sur le long terme, et on parle de 3 à 6 mois, tu vois, même moins de 1 à 3 mois, je pense, fonctionne le plus, c'est d'aller créer des relations, maintenir des relations, avoir un suivi sur son CRM, essayer de, voilà, d'avoir toute une espèce de stratégie commerciale, de se rappeler qu'une stratégie commerciale, c'est pas que pour vendre, mais surtout pour avoir,
soin des relations.
Voilà, avoir des prétextes pour aller parler aux gens, prendre soin des relations, maintenir les relations. Moi, j'ai des gens qui, j'ai bossé avec une nana là. On s'était rencontrés pour la première fois sur Instagram. C'était même pas mon Instagram d'aujourd'hui. Je pense que j'ai supprimé le compte. Il y a 3 ans, tu vois. Et je faisais même pas de copywriting. Et elle est venue me voir là en me disant, j'ai envie de bosser avec toi et tout. Tu sais jamais, en fait, ce que relations vont donner, les opportunités que ça peut créer. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'on n'est pas que à la recherche de clients. On peut chercher des apporteurs d'affaires, des prescripteurs, des personnes qui vont nous recommander, des nœuds de réseau. Enfin, voilà, c'est vraiment, à mon sens, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que cette phrase, alors je sais pas trop comment la traduire, mais your network is your net worth, elle est donc ton réseau et ton
c'est ta valeur
actif
entre guillemets, quoi, voilà.
Principal, voilà. Elle est très vraie, quoi. En fait, c'est les relations que t'as et comment tu les soignes et comment tu restes en lien et que tu proposes sans imposer, mais juste proposer. Typiquement, moi, j'ai fait cette démarche-là avec une entrepreneuse que Nina Ramen m'avait conseillée. Effectivement, j'ai découvert son travail, j'ai trouvé ça trop chouette. J'ai commencé à lui envoyer des messages. Et à la fin, je lui ai dit vraiment, si t'as envie un jour, si t'as besoin d'un coup de main sur partie page de vente, tunnel de vente, email et tout, hésite pas. Enfin, même si t'as besoin juste d'un retour, je suis là, quoi. C'est juste une proposition.
Mais je pense qu'il y a un truc qui se joue, du coup, sur tout un récit autour de, comme tu disais, prendre un job à mi-temps, ce n'est pas un échec. Tant qu'on croit que c'est un échec et que du coup on est accro, fait que ça marche maintenant tout de suite à court terme,
c'est
ce qui peut nous faire tomber dans le fait d'utiliser des techniques parfois un peu toxiques qu'il faut faire fonctionner maintenant, tu vois. Alors que si on se détend, je pense, et qu'on se laisse plus de temps, voire même qu'on commence ces autres stratégies plus tôt, bah du coup c'est plus apaisé. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui se joue. Alors, en attendant qu'on soit dans une merveilleuse société où il y a un revenu universel et où notre sécurité financière est assurée, pas par l'individu, mais par
la
structure et le collectif. Mais avant ça, je pense qu'on a justement besoin de ces autres récits, comme ceux que tu as partagé un peu là, de... En fait, il y a le temps.
Et puis ça prend du temps.
Ça prend du
temps. C'est normal que ça prenne du temps.
Ouais.
je sais, enfin, je me souviens de quand je m'étais lancée, genre l'urgence que ça peut être et tout, de se dire il faut générer des revenus, il faut machin, et puis tu te compares aux autres, et puis truc, et puis machin. C'est hyper anxiogène. Et la vérité, c'est que, mais même quand t'es, enfin, quel que soit ton stade d'avancement business, les choses, elles prennent du temps, en fait.
C'est clair.
Et dans la vie aussi, les relations, elles prennent du temps.
Y compris pour nous.
Et pour nous aussi, et puis ouais, c'est ça. Puis pour la croissance de notre boîte aussi, moi je passe, enfin je milite très fort pour qu'on ait aussi des modèles d'entrepreneuriat beaucoup plus slow, beaucoup plus durable, beaucoup plus lent, avec une croissance beaucoup plus lente, qui prennent le temps en fait. Y a pas, enfin, ben je sais pas. Je me dis déjà pourquoi, ouais, je sais pas pourquoi il faudrait forcément que ce soit rapide.
Ce sera peut-être le prochain un sujet pour un prochain épisode.
C'était, c'était une ouverture.
C'est
une réflexion qui me vient.
On adore les ouvertures sur ce podcast parce que je préfère largement les questions aux réponses. Et on va clôturer, comme d'habitude, avec une question. Et j'ai décidé de changer un peu le rituel de fin de ce podcast. Normalement, je vais te demander à un moment de poser une question aux gens qui nous écoutent. Mais avant ça, j'ai récupéré toutes les questions que tous les invités du passé ont posé sur ce podcast. On est en train de créer un jeu de cartes avec toutes ces questions.
Oh, j'adore.
Et du coup, comme ce jeu de cartes n'existe pas encore, j'ai tiré au sort une question pour toi, comme si je tirais au sort une carte maintenant en live. Et cette question, c'est la question qui a été posée par Maxime de Beauchesne dans l'épisode 12. À quoi ressemble un monde où ton activité n'a plus aucune raison d'exister, Valentine?
Oh, wow. Oh putain, c'est quoi cette question? Oh waouh, c'est fou ça. Alors, tu veux qu'on aille vite? Non, on prend le temps, on a dit. À quoi ressemble un monde où mon activité n'a plus de raison d'exister? Bah, déjà, on n'est plus dans un monde capitaliste, forcément. On parle vraiment de mon activité parce que j'ai un peu de... Moi, il y a la partie création de contenu qui est plutôt du truc.
Ça rentre dans ton
etc.
activité, à mon sens. Okay. C'est-à-dire tout ce que tu fais au quotidien au service de ton entreprise et de ce qui compte pour toi.
Oh. Et bien, cette partie-là, je vais être ultra narcissique et je vais dire qu'il n'y a pas de monde dans lequel elle ne mériterait pas d'exister. Parce que je pense que nos récits méritent toujours d'exister, d'être partagés, d'être lus. Même si demain, tout le monde parle. Hein. Même si demain, il n'y a plus de tabou autour de ces trucs-là. Et bien, je pense que justement, pour qu'il n'y ait plus de tabou, il faut que ça continue à être un sujet sans tabou et quelque chose de partagé et des récits de partagés. Donc je vais être ultra narcissique et je vais dire que ça, il y en a toujours besoin. Et que du coup, ça voudrait juste dire qu'il n'y a plus d'humains sur la planète et que ce serait horrible qu'on raconte plus d'histoires et tout. Ce serait horrible, ce serait un très mauvais signe. Donc je le souhaite à personne. Pour la partie où j'accompagne du coup des entrepreneurs avec des valeurs radicales à générer plus de conversions sans sacrifier leurs valeurs, j'imagine que c'est un monde... dans lequel il n'y a plus d'argent, plus de recherche de performance, plus d'entreprises qui essayent de générer des sous pour développer leur boîte. Donc on est dans un monde anticapitaliste. Et la question, ce serait du coup comment j'ai cet impact quand même en dehors de cette sphère économique-là. Et j'arrive pas à l'imaginer, je sais pas. Parce que manque de récits, les enfants, écrivez des histoires.
On a grandi dans un monde où il y a un récit dominant de comment le monde doit être organisé. Ouais. Et je trouve ça effectivement hyper dur de visualiser ce serait quoi notre monde s'il n'était pas construit sur cette grande histoire qu'est le capitalisme,
ah, oui,
qu'on a intégré depuis notre naissance. Ouais. J'en ai aucune idée.
Je pense qu'il y aurait toujours ce truc pour moi de continuer à essayer, en tout cas, ce que je fais, enfin, ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est d'accompagner des boîtes qui ont des grosses valeurs, voilà, féministes, etc. Donc, comme je le disais, je pense que ça, c'est des récits qui méritent toujours d'être, enfin, en fait, il n'y aura pas un moment où on n'aura plus besoin de se battre, je pense. Mais du coup, ça se traduira autrement et je ne sais pas comment, vraiment, je ne sais pas.
Quelle question est-ce que tu veux rajouter au jeu de cartes, Valentine ? Si tu as une question que tu peux mettre dans notre jeu de cartes, que des gens vont se poser, réfléchir avec, peut-être vouloir te répondre après cet épisode, quelle question on rajoute ?
Je ne sais pas pourquoi, c'est celle-là qui me vient. C'est impressionnant, je n'y ai pas pensé depuis des années, mais je crois que c'était... Je ne sais plus si c'était Nicolas Fayard ou Johanna Mendel qui l'avait posé au tout premier séminaire qu'on avait fait ensemble et j'avais trouvé hyper intéressante. De si ta vie était un film, ce serait quoi la scène qui fait l'élément perturbateur de tout et qui décrit tout, enfin qui explique tout le déroulé du film et le pourquoi du film. J'aime bien cette question.
Génial.
Voilà.
Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Internet pour te répondre, suivre ton travail, discuter avec toi?
Alors, j'ai un bébé compte Instagram, si vous voulez. J'ai 40 followers, je l'ai lancé il y a 3 jours. Donc, bon, non, il n'y a rien dessus, c'est pas très intéressant. Mais c'est valentine.lagan, au cas où, si vous voulez me retrouver sur Instagram. Et sinon, je publie surtout sur LinkedIn. Pareil, Valentine Lagan, L-A-G-A-N-D. Je publie beaucoup sur le féminisme. La santé mentale, l'entrepreneuriat.
Et le marketing éthique, un petit peu de temps en temps.
Voilà, de temps en temps.
Merci Valentine pour cette merveilleuse discussion. C'était un plaisir de te recevoir.
Oui, merci Thomas, c'était trop chouette.